Bonsoir à tous, Bagassi Koura au micro, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique, une émission interactive hein, comme tous les lundis soirs. Dans cette émission, les résultats, les analyses d'événements sportifs, plein feu ce soir sur les tours préliminaires de la Coupe CAF et de la Ligue des champions africaines jouée ce week-end. Comment avez-vous trouvé la performance de votre club? Coup d'arrêt donc sur, aussi sur le pénalty hein, de Messi. Messi dans le club, le Barça a écrasé Celta Vigo 6 buts à 1 en Europe, où les propos aussi de Serge Aurier qui font des vagues au Paris Saint-Germain. Qu'avez-vous retenu dans l'ensemble concernant ce week-end sur le plan sportif? Amis auditeurs, vos commentaires, chers auditeurs, donc sur la page Facebook de VOA Afrique. Et nous attendons aussi vos appels hein, en direct composé, le 001 202 619 31 40. Voilà, d'abord, prenons la direction de Paris pour retrouver Christian Mpanzou. Bonsoir, Christian.
Bonsoir, Bagassi. Bonsoir à tous.
Voilà, on vient à vous parce que ce soir, hein, les problèmes continuent pour Serge Aurier, l'international ivoirien qui a tenu hein, des propos jugés inacceptables pour Laurent Blanc, l'entraîneur du PSG.
Ouais, il a insulté son entraîneur, il a insulté plusieurs de ses coéquipiers. Alors en fait, pour vous resituer tout l'événement, c'était au cours d'un chat vidéo avec des supporters du Paris Saint-Germain sur Internet dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'est exprimé, il a répondu à plusieurs questions et à cette occasion, il a insulté sans retenue donc ses coéquipiers et son entraîneur, comme je vous le disais. Dès le lendemain, le club s'en est rendu compte, ils ont convoqué plus de 2 heures d'entrevue avec le président qui a tout de suite mis à pied Serge Aurier qui ne jouera pas demain face à Chelsea, Serge Aurier qui écope également d'une amende de 160 000 euros avant peut-être d'autres sanctions à venir dans les jours et les semaines qui viennent.
Oui, Serge Aurier donc qui fait les frais des réseaux sociaux. Il me semble qu'il y a un débat en cours en ce moment. Est-ce que les joueurs devraient être laissés libres pour utiliser les réseaux sociaux?
Alors c'est vrai que beaucoup de joueurs de football professionnel ont maintenant accès à Twitter, ils ont des comptes Twitter, des comptes sur Facebook, ils peuvent directement dialoguer avec leurs fans et leurs supporters. Ça fait quelques vagues et déjà avec Serge Aurier, l'année dernière, après le match retour face à Chelsea, Serge Aurier qui avait insulté un arbitre et le joueur de Chelsea, Diego Costa, ça lui avait valu plusieurs matchs de suspension, il récidive encore une fois. C'est vrai que c'est un vrai problème pour les clubs, les comptes Twitter et Facebook des joueurs, qu'ils ne peuvent pas contrôler eux-mêmes finalement.
Est-ce qu'on peut dire que ces jours au PSG sont comptés?
Alors pas vraiment. On a vu dans la démarche de communication du club que ils veulent avant tout le conserver. On ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas s'il va rejouer avec le PSG, mais il ne sera pas licencié du club. Serge Aurier, il faut savoir que c'est un jeune joueur, il n'a que 23 ans. Ouais. C'est une très forte valeur marchande pour le Paris Saint-Germain, donc le licencier, ce serait perdre beaucoup d'argent également.
Et donc une très forte valeur marchande qui ne sera pas sur le terrain demain donc face à Chelsea, ce qui est aussi un gros risque pour le PSG.
Oui, parce que bon, du coup, ils vont aligner très certainement le Brésilien Marquinhos sur le côté droit. C'est un très bon défenseur, mais ce n'est pas un latéral droit, c'est un défenseur central de formation. Donc forcément, se priver de son joueur numéro 1 à un poste aussi clé qui est le côté droit, puisque je rappelle que côté gauche pour Chelsea, ce sera Eden Hazard, donc ce sera un joueur très difficile à bloquer, un joueur que Serge Aurier aurait pu bloquer s'il avait été sur le terrain, mais ce sera Marquinhos très probablement. Donc oui, forcément, ça sera compliqué à gérer, et puis même, je peux vous dire une chose, dans le vestiaire, les joueurs sont très 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 fâchés contre Serge Aurier.
Oui. Alors, une dernière question. Hein. On savait que le champion anglais était très mal en point avec limogeage donc, de leur entraîneur, hein, José Mourinho. Mais on a vu cette large victoire ce week-end, 5 buts à 1. Et tous ces problèmes avec le PSG, peut-être que le match risque d'être relancé. Hein. Le Chelsea a une chance ici.
Bah, tout est bénéfique pour Chelsea, enfin, ouais. Au final, ce qui s'est passé ce week-end. Je voudrais juste rappeler que Chelsea est invaincu depuis le limogeage de José Mourinho. Ils n'ont pas perdu. Ce week-end, vous l'avez dit, ils ont gagné 5 buts à 1 contre Newcastle. tout semble aller pour le mieux à Chelsea. Ils ont récupéré un peu tout le monde. Eden Hazard, qui n'était pas en grande forme depuis le début de la saison, revient petit à petit. Ce sera peut-être pour lui demain l'occasion de faire son premier grand match de la saison. Vraiment, tous les feux sont ouverts pour Chelsea, on peut le dire.
Oui, avant de vous laisser partir, on a vu dans le 5-1 de Chelsea, il y avait ce but de Bertrand Traoré, qui n'a pas assez joué pour le champion en titre anglais jusqu'à présent.
Bertrand Traoré, c'est un jeune joueur. On sait que c'est le petit frère d'Alain Traoré, joueur qui est passé par le championnat français. C'est un joueur prometteur. C'est pour ça que Gus Hiddink lui fait de plus en plus confiance. Mais à l'époque où José Mourinho était encore l'entraîneur de Chelsea, ça a été un peu compliqué pour lui de se faire une place, puisque c'est un effectif quand même de star. Mais petit à petit, depuis l'arrivée de Gus Hiddink, il se ferait un petit chemin dans le 11 titulaire de Chelsea.
Voilà, merci infiniment et bonsoir à Paris.
Bonsoir à vous tous, merci Bagassi.
Voilà, bientôt. Voilà, c'était donc Christian Panzou, notre correspondant à Paris. Il nous parlait de ses déboires avec des déboires de Serge Aurier avec son club, le Paris Saint-Germain. Voilà, au micro Bagassi Koura. Vous êtes à l'écoute de Sporama, c'est sur VO Afrique en direct de Washington. On va retrouver nos inconditionnels sur le continent. On me parle de Salif Kabore à Ouagadougou. Bonsoir Salif.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir à Ouagadougou.
Voilà, et bien sûr, Libreville, où se trouve notre baobab, baobab du sport, Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Voilà, et vous, votre réflexion, votre point de vue sur tout ce qui se passe là avec Serge Aurier?
Oui, il faut dire que l'affaire est regrettable parce que c'est un joueur en pleine ascension. Et pour beaucoup, ça a été le meilleur joueur ivoirien de la dernière CAN et son impact tactique sur le jeu du Paris Saint-Germain est vraiment très appréciable sur son flanc droit. Bon, mais il ne faut pas oublier que ces joueurs sont jeunes, ce sont des enfants. Et puis, venant d'Afrique, on est habitué à un autre climat où on peut se bagarrer et puis se retrouver et à la fin du match, s'excuser et recommencer à jouer. Donc, ça fait qu'ils sont perfectibles et je crois qu'ils devraient être mieux entourés et par des communicateurs et tout ce qui s'ensuit.
Voilà, et tout ce qui s'ensuit, cette première réaction sur Facebook de Youssouf Ouédraogo, qui affirme que je condamne les propos injurieux de Serge Aurier à l'égard de son entraîneur et ses coéquipiers, mais je refuse qu'on fasse de ce joueur un monstre qu'il n'a jamais été. Au-delà du contexte de ses propos déplorables, je rappelle que le géant Zlatan Ibrahimovic a aussi eu des propos déplacés envers son club, le Paris Saint-Germain. C'était donc la réaction de Youssouf Ouédraogo. Je crois qu'il est à Ouagadougou. Salif, vous avez entendu, on essaie de comparer Serge Aurier à Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que vous iriez jusque-là?
Non, je pense que les joueurs, par moments, ont des comportements certes regrettables, mais qui sont peu condamnables. Parce que vous savez généralement que sur l'heure de jeu, le sentiment qui anime un joueur n'est pas le même que ce qu'il ressent après le match. Donc je crois que sous l'effet de la colère, il y a certaines choses que les joueurs lâchent souvent à l'endroit de leur entraîneur. Et on a même vu de très grands joueurs africains qui ont eu ce genre de comportement et qui l'ont regretté plus tard. Vous voyez, Samuel Eto'o a eu ces mêmes difficultés. Et vous avez également du Drogba, même à l'époque, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, qui a eu ces mêmes difficultés. Mais je pense surtout qu'il faut comprendre, l'autre côté de Libreville, vous disait tout à l'heure qu'il y a cette question donc, de la jeunesse qui arrive souvent à certains joueurs. Donc je crois que sur le terrain, il y a certaines choses qu'on doit comprendre, mais il s'agirait justement à l'entourage de communiquer mieux avec le joueur, l'encadrer de façon à ce que dorénavant ce genre de syndrome ne se reproduise pas. Je crois aujourd'hui qu'il faut peut-être donner la chance donc à ce joueur-là de pouvoir montrer de quoi il est capable sur le terrain, car il y a son avenir qui compte. Donc je pense qu'il a besoin du soutien que donc tout de suite de vouloir l'accabler. Je crois qu'il n'a pas besoin de ça. Il faut comprendre le joueur quand ils sont très jeunes.
Oui, et pour terminer, Jules, très rapidement, est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte que les joueurs gardent quand même leur liberté d'expression et faire en sorte que ce qui se passe sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux et ce qui se passe sur le terrain reste là et que les deux mondes soient séparés et avec le joueur capable de dire ce qu'il pense?
Oui, ce serait l'idéal, mais le problème est que le monde est un tout maintenant et le football est englué dans un système qui intègre beaucoup d'intérêts et donc finalement, ces joueurs deviennent, je l'ai dit, sont jeunes, mais deviennent entourés et disons doivent être prudents comme des chefs d'État.
Voilà, prudents comme des chefs d'État. Ben nous aussi, on va être prudents, on va quitter les réseaux sociaux pour aller directement sur le terrain. Il y avait ce week-end le tour préliminaire aller de la Ligue des champions 2016 qui s'est joué donc ce week-end. Dans l'ensemble, les favoris ont pu tirer leurs épingles du jeu. Et nous avons notre premier auditeur qui est en ligne, Bakary Keïta. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute.
Je crois que pour la prestation des équipes maliennes,
ouais.
Elles ont fait quand même des fortunes diverses. Le stade malien quand même a remporté quand même la victoire face à l'équipe bobolaise 3-1. Bakaryan a fait match nul 1-1.
Alors Keïta, vous restez avec nous et vous ne partez pas. On va écouter Oscar Barro. Oui. Il est l'entraîneur du Racing Club de Bobo-Dioulasso. Okay. Vous allez entendre ce qu'il a à dire sur ce match.
On a dominé ce match, on a marqué à la première période. La deuxième période, les joueurs ils sont tombés plus ou moins dans la facilité. Ils ont reculé un peu plus dans le bloc défensif. On a encaissé le but. Après, bon, on a essayé de combiner. Là, c'est Bakary, c'est une bonne équipe qui est très bien répartie sur le terrain. Il a beaucoup de joueurs en valeur intrinsèque vraiment formidables et de niveau. Le match, il n'a pas été un niveau souhaitable, un niveau très très moyen. Mais en général, on a fait un résultat positif. Quand on joue à l'intérieur, c'est pas comme à l'extérieur.
Voilà, donc je ne suis pas sûr qu'on ait là Oscar Barro, donc l'entraîneur du Racing Club de Bobo-Dioulasso. Et on va revenir à là-dessus. Je crois que ça devrait être l'entraîneur du stade malien plutôt, Kamel Diabour. Yeah. Donc on va écouter l'entraîneur du Racing Club de Bobo-Dioulasso maintenant.
C'est des impressions de désolation parce que ce que nous avons vu ce soir, et moi j'estime que le football africain n'a pas besoin de ça. Les stades, quand on les a vus jouer, c'est une équipe qui sait très bien jouer au ballon. Ils n'ont pas besoin que les arbitres les poussent pour gagner un match. Vous constatez que deux buts sont des faits d'arbitrage. C'est-à-dire des arbitres qui accordent des buts à une équipe. Le premier but est une position nette d'orgue. Le deuxième but également, le gardien a été chargé. Après ça, celui qui marque le but est carrément en position d'orgue.
Alors Keïta, vous êtes toujours en ligne, hein?
Oui, très bien, oui.
Ouais, vous avez entendu, hein, Oscar Barro, l'entraîneur du Racing Club de Bobo-Dioulasso, qui a perdu 3-1. Il n'est pas d'accord avec ce score-là.
Bon, écoutez, ça c'est quand même les aléas quand même du football africain. Quand on est battu, on s'acharne quand même contre l'arbitre. Moi, je crois que ce qu'il a dit, peut-être il doit prouver ça au match retour, que le stade quand même ne méritait pas de gagner, à mon avis. Vous voyez, ouais. Mais il faut dire que l'équipe est une très bonne équipe, une équipe physique, mais elle est quand même au-dessus de cette équipe, malgré quand même qu'elles n'ont pas quand même assez de championnats. Mais quant à la prestation de l'USFAS, quand même, elle a été battue quand même déjà à Gagnon en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une piètre quand même prestation. Ouais. Parmi tout ça, on peut dire que c'est dû quand même quelque part au manque de championnats. Mais aussi qu'on ne peut pas reposer tout sur le championnat parce que l'équipe libyenne qui est venue quand même battre au Cadet de 2-1 à Libye, quand même, il n'y a pas de
semaine. Oui.
Ça montre aussi quand même la formation, le sérieux quand même dans le travail, quoi.
Oui, merci. Merci infiniment de nous suivre depuis Bamako. Vous parliez donc de ce match entre Ali de Tripoli de la Libye, donc face aux 11 créateurs de Niarela. Score 2-1. On écoute le coach des 11 créateurs, Djibril Dramé.
C'est très dur, très très dur à avaler. Parce que c'est pas une équipe qui devait nous battre. Mais encore, l'explication est là. Je crois qu'en première mi-temps, on a vu une bonne équipe de 11 créateurs qui était bien en place, qui pouvait même terminer le match. Mais en deuxième mi-temps, il faut reconnaître qu'on a carrément baissé de régime. Malgré la pression, les placements, les changements, les permutations, ça n'a pas marché. Physiquement, l'équipe a pêché. On ne peut que tirer les leçons et se préparer d'avenir. L'équipe avait demandé des renforts. L'équipe avait des anciens qui étaient sur la sellette de partie. Donc, pour les problèmes administratifs, tous ceux-ci-là ont été quand même des handicaps pour l'équipe. Une équipe sans attaquant.
Une équipe sans attaquant, des propos teintés d'amertume de Djibril Dramé, l'entraîneur donc, du 11 créateur. Nous avons Abdallah de Burundi. Bonsoir.
Bonsoir Bakary. Comment allez-vous?
Oui, c'est bien Bagassi. Ouais, je vais très bien.
Ah d'accord, super.
Alors on vous écoute.
Pour moi, je dois rappeler qu'Ibrahimovic avait traité la France de pays des merdes. Laurent
ouais,
Blanc
s'est oui.
exprimé de la manière raciste sur les Noirs dans l'équipe de France et sur les quotas. Oui, l'entraîneur de Bordeaux avait dit que le joueur noir était un joueur physique sans cerveau. Aucun de ces trois a été sanctionné. Mais quand c'est un noir qui en fait autant, ben ça devient, des polémiques médiatiques. Nous ne devons pas diaboliser Serge, hein, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Pour ce qui concerne le penalty de Léo Messi, tout cas, j'ai kiffé énormément, ben j'ai trouvé en Messi que c'était un grand joueur, il n'est pas égoïste, parce que de ce penalty allait lui donner un but, et ça allait être vraiment... il allait être un gagnant ce jour-là, mais il a préféré donner ça à Luis Suarez. Et donc pour moi, qui est fan de Ronaldo, avoir Messi faire cet acte, ben écoutez, je salue l'acte de Messi.
Voilà, merci infiniment. Et vous êtes bien à Bujumbura, c'est ça? Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à Bujumbura. Merci de nous suivre, donc, cet auditeur qui essaie de rappeler un peu tous ces dérapages qui ont eu lieu dans le football, notamment le football français, concernant la question de Serge Aurier. Et aussi, donc, on parlait des coupes africaines. Hein. On revient donc aux coupes africaines sur le terrain avec ce déplacement des Congolais de l'AS Vita Club qui ont écrasé les Mafunzo de Zanzibar 3-0. Forfait de Moshudu Chief de Botswana face au Ferroviaro de Maputo de Mozambique. 1-0 pour Chicken Inn de Zimbabwe face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les Wariwolves du Nigeria se sont qualifiés suite à un autre forfait d'Afrique de Praia Cruz, de São Paulo et Principe. Et Mangasport a fait match nul face à l'Étoile du Congo. J'imagine que vous avez suivi cette rencontre.
Oui, bien sûr, mais une rencontre très monotone, très morne, vraiment qui a laissé tout le monde sur sa faim. Et les Congolais étaient venus chercher le nul, ils l'ont obtenu et Mangasport n'a pas eu le tonus nécessaire pour renverser la situation.
Voilà, merci Jules. Et Salif Awaga, vos deux clubs, notamment le Racing Club à Bamako, a perdu largement, 3-1. Il y a aussi cette défaite en Coupe CAF dans le Maghreb.
Oui, justement, l'Union sportive des forces armées et des clubs militaires du Burkina Faso qui perd 3-0 face au CAC Marrakech. Alors, c'est une défaite incompréhensible pour l'Union sportive des forces armées parce qu'avant le départ pour le Maroc, le président même du club avait rassuré que c'était des militaires et quand un militaire va en guerre, soit il gagne la partie ou alors il tombe les armes à la main. Mais là-bas, je ne pense pas que l'UFA soit tombé avec les armes à la main parce que 3-0, c'est vraiment un score assez lourd alors que en tout cas, ce ne sont pas les moyens qui ont manqué pour préparer ce rendez-vous donc de Marrakech. Bon, 3-0, je crois que la pilule est très amère à avaler. Et il va falloir donc travailler davantage, même si on sait déjà que le retour sera très difficile. Et surtout quand on a vu cette formation marocaine évoluer hier dimanche contre l'USA, on a vu une équipe soudée, une équipe athlétique très dynamique. Alors on se demande comment le club militaire du Burkina Faso pourra faire pour venir à bout de cette formation lors du match retour ici à Ouagadougou.
Voilà.
Alors quant au Racing Club de Burkina Faso, on a écouté tout à l'heure Oscar Barrault
Bon, vous voyez, une équipe comme le RCB qui se déplace dans de très bonnes conditions, ça a été dit ici par les dirigeants même du club avant leur déplacement à Bamako, et qui perd 3-1. Alors, en première mi-temps, on a vu une équipe au Burkinabé qui a tenu le match. Le Stade Malien a marqué et les Burkinabés ont réussi donc à égaliser. Alors, comment se fait-il qu'en deuxième mi-temps, l'équipe Burkinabé encaisse jusqu'à 2 buts? Je crois qu'il y a eu un problème de coaching. Et ça, il faut le dire, parce que la physionomie du match en première mi-temps n'a pas été la même en deuxième mi-temps. Donc, dans les vestiaires, à la première mi-temps, il y a eu une autre façon de voir les choses par l'entraîneur, et je crois que c'est ce qui a entraîné donc le RCB à encaisser les 2 autres buts en deuxième mi-temps. Et on a même vu les supporters burkinabés et maliens qui se sont accrochés dans les gradins. Alors, heureusement, il n'y a pas eu donc de blessés graves, mais ce sont des actes quand même qu'il faut aussi
déplorer. Alors, Salif, vous restez avec nous, et je rappelle que vous êtes en ligne de Ouagadougou. Nous avons aussi Jules Valentin Gouet en ligne de Libreville, et vous suivez Sporama, c'est sur VOA Afrique. Rappelons que ce vendredi, donc, à Bamako, au stade de Modibo Keïta, l'AS Bakaridjan de Barouéli a fait match nul, 1-1 face au stade gabésien de Tunisie. Écoutons le coach du stade gabésien de Tunisie, Nizar Kamfir.
C'était un match équilibré, un match trop physique aussi. C'était un très bon match. Malheureusement, on n'a pas pu gagner, mais on est confiant. D'ici le match retour, on va bien se préparer pour enfin pouvoir décrocher la victoire. L'adversaire, ils sont bien surpris physiquement. Ils étaient là. C'est pas un adversaire à négliger. On va bien nous préparer pour les affronter. Avant le match retour, on va bien se préparer pour enfin pouvoir décrocher la victoire.
Voilà, je crois que c'est Mohamed Maïga, donc de l'AS Bakaridjan. Mohamed Maïga, donc de l'AS Bakaridjan, qui a été tenu en échec 1-1 par le stade gabésien de Tunisie. On écoute l'entraîneur du stade gabésien, Nizar Kamfir.
C'est une grande satisfaction parce qu'on partait dans l'inconnu dans tout. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en compétition, ça faisait quand même longtemps qu'on n'a pas vu nos internationaux. Donc pour nous, c'était une première manche difficile mentalement et psychologiquement à préparer. On a tâtonné en première mi-temps et en deuxième mi-temps, je pense qu'on a retrouvé nos sensations. La satisfaction, c'est d'avoir marqué quand même 3 fois. La déception, c'est d'avoir pris un but à un moment où il ne fallait pas. On va y aller dans 15 jours, je suppose. On va aller arracher notre qualification là-bas. On part avec un avantage de 2 buts, mais ça ne sera pas suffisant si on ne déploie pas un peu plus d'énergie sur le terrain.
Voilà, ça ne sera pas suffisant, hein, Jules, vous l'avez entendu. Et donc, le stade, l'AS Bakaridjan du Mali, donc de Bamako, qui fait un match nul face aux Tunisiens. Il faut dire que le retour va être un peu plus compliqué avec ce but à l'extérieur.
Oui, bien sûr, surtout les matchs retour en Afrique du Nord sont vraiment très stressants. Le public est très proche de son équipe et surtout les équipes tunisiennes, pour quand ils sont à domicile, jouent très offensif. Donc ce sera un match très difficile à soutenir pourvu que peut-être en début de rencontre, les visiteurs puissent marquer un but et refroidir un peu l'équipe qui les accueille.
Voilà, merci Jules. Hein. Il y a l'auditeur qui l'avait abordé avec ce pénalty exceptionnel qui a été tiré hier par Lionel Messi. Et là, nous sommes en championnat d'Espagne. Hein. Lionel Messi qui a donc fait la passe à son coéquipier qui a pu marquer donc ce but et qui fait beaucoup le buzz sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Salif à Ouagadougou, un mot sur ce pénalty là, parce que beaucoup ont quand même été surpris. J'ai vu beaucoup me demander, mais est-ce qu'on peut tirer un pénalty de cette façon? Bien sûr que oui.
Oui, bon, en fait, j'allais dire même que c'est un pénalty. La qualification me manque, mais il faut être vraiment un génie pour pouvoir l'exécuter. Alors, Lionel Messi a réussi à le faire. Dans tous les cas, on le surnomme ici au Burkina Faso le génie du football, parce que de la manière même dont il marque ses buts de façon ordinaire, généralement, c'est inimaginable. Bon, je crois que Lionel Messi cherche toujours donc à sortir justement de l'ordinaire dans ses différentes actions. Donc je crois que c'est dans ce sens-là que j'ai compris le tir de ce pénalty.
Voilà, et Suarez donc qui marque avec cette passe de Lionel Messi, le Barça qui a réalisé donc 6-1 face à Celta Vigo. Nous avons Kevin en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute.
Oui, c'est juste pour apporter mes impressions par rapport au trio barcelonais qui s'est présenté hier d'une manière vraiment très illustrée. Et comme quoi j'ai apprécié le système Léo Messi, qui est un joueur qui est convoité partout, et il prouve toujours qu'il est le joueur du siècle. Parce qu'il me démontre sur le terrain un joueur calme et il ne s'énerve pas, malgré qu'il est un chasseur de but. Quand l'occasion ne se présente pas, il ne s'énerve pas, il ne montre pas qu'il est assoiffé de but. Et ce qu'il a présenté hier, c'est vraiment à apprécier sur le plan du football. Et c'est une manière aussi de prouver à Cristiano Ronaldo, qui est son rival, comme on a tendance de le dire, que lui n'est pas un joueur qui est sur le terrain pour marquer, mais c'est pour jouer et démontrer un football de taille.
Un football de taille, merci infiniment. Hein. Jules, vous avez vu ces matchs préliminaires des Coupes africaines. Qu'est-ce que vous pensez du niveau ?
Oui, le niveau est bon. Depuis le Chan, je ne fais que le claironner. Le football africain est en train de progresser à tous les niveaux, même si on a parlé un peu d'arbitrage, mais c'est d'ailleurs un des domaines qui m'a le plus intéressé. Et je crois que la phase première, si les joueurs, les équipes ne se connaissaient pas parce qu'il n'y avait pas assez de vidéos, mais au fur et à mesure qu'on avancera en compétition, ça va encore s'améliorer.
Oui. Et Salif, apparemment, ça commence très mal pour les équipes du Faso Foot.
Oui, ça commence vraiment très très mal, parce que 3-0 et 3-1 à l'extérieur. Bon, le RTB garde toujours ses chances donc, de pouvoir passer.
Ouais.
On n'en sait jamais, parce qu'avec deux buts marqués à Ouagadougou, ça peut passer, mais à condition que l'adversaire donc, ne
voilà,
puisse
merci.
Pas marquer. Mais,
voilà, merci. Merci Salif, merci d'avoir participé à Sporama de ce lundi. Merci à Jules à Libreville, merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Bagassi Koura. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Sporama.